Vous écoutez la radio pour la paix internationale.
You're listening to Radio for Peace International.
Escuchas la radio por la paz internacional.
Sie hören Radio für internationalen Frieden.
Ascolti la radio per la pace internazionale.
Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute des podcasts de RFPI et d'IDN, Initiative pour le désarmement nucléaire. Bienvenue. Nous recevons aujourd'hui Simon Albert Lebrun. Simon Albert Lebrun est juriste spécialisé en droit international humanitaire. Après avoir travaillé dans des camps de réfugiés en Jordanie et au Liban, il donne des cours aux étudiants de droit à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Au sein d'IDN, il est en charge du pôle jeunes. Il coordonne les actions de communication, la gestion des réseaux sociaux et l'organisation d'événements, et donc l'organisation de Janus, journée contre les armes nucléaires et pour la sécurité. Simon Albert Lebrun, bonjour.
Bonjour, bonjour, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui.
C'est avec grand plaisir. Pourquoi avoir choisi la cause du désarmement nucléaire multilatéral ?
C'est une excellente question et justement qui se répond un peu avec la partie multilatérale de la question. Le désarmement nucléaire, comme j'imagine que vous le savez, c'est quelque chose qui devrait continuer, c'est quelque chose qu'on aimerait voir pour la sécurité de notre planète. Malheureusement, depuis la fin de la guerre froide, ou ce qu'on dit être la fin de la guerre froide, on voit sur tous les fronts un réarmement. On voit la France qui modernise son arsenal nucléaire, mais également la Chine qui modernise ses missiles, les États-Unis également. Et partout autour du monde, on voit que les traités de droit international qui assuraient qu'il y ait une forme de désarmement nucléaire, une forme de réduction des arsenaux, est en train de disparaître. Il n'y a plus de structure internationale, il reste deux traités. Les deux, un d'entre eux, le nouveau START, risque de ne pas être renouvelé si Donald Trump est réélu. Et l'autre traité, le traité de non-prolifération, a déjà plus ou moins échoué, puisque depuis son élaboration, deux nouveaux pays, notamment la Corée du Nord et l'Israël, ont obtenu l'arme nucléaire. Donc, je pense personnellement qu'il est important de continuer la démarche internationale vers un désarmement nucléaire, mais qu'il faut qu'il soit fait, bien sûr, de manière multilatérale, progressive et équilibrée pour ne pas remettre en jeu de manière assez spectaculaire tout l'ordre international. On ne demande pas, par exemple, à la France d'abandonner du jour au lendemain ses armes. On demande simplement à ce que le processus multilatéral de désarmement et de contrôle de non-prolifération soit remis en place.
En parlant des traités, le New START, IDN, a signé une tribune avec 75 autres associations, c'est ça, hein, récemment.
Exactement, donc c'est typiquement le genre d'action que mène Initiative pour le désarmement nucléaire depuis environ 5-6 ans maintenant, où nous publions des tribunes, nous travaillons avec d'autres associations en France, le Mouvement pour la paix, les Maires pour la paix, pour travailler comme on peut avec les associations qui sont pour un désarmement nucléaire. Il faut dire qu'en France, il y a un gros tabou autour de ce sujet. J'aimerais noter qu'à l'Assemblée nationale, il n'a pas été discuté depuis 1995, et encore, ce n'était qu'une proposition de discussion concernant la théorie de la dissuasion nucléaire. Mais c'est pour vous dire qu'il y a un manque démocratique énorme en France concernant la question des armes nucléaires, et notamment aujourd'hui avec la question défense européenne où la question se pose réellement et notamment par nos alliés allemands d'outre-Rhin. Je pense que c'est absolument crucial de continuer à travailler vers une prolongation de ce traité puisque, comme je le disais, c'est toute l'organisation internationale autour des armes nucléaires qui s'est effondrée depuis 10 à 15 ans et notamment sous Donald Trump.
Justement, j'en ai parlé en propos liminaire de l'émission. Vous avez un nombre de missions au sein d'IDN. Quelles sont les actions que vous menez ?
Alors, personnellement, vous voulez dire ?
Non, personnellement et collectivement.
Alors, il y a toute une série d'actions. IDN a récemment changé, je dirais, de stratégie. Puisque forcément, les armes nucléaires, comme je le disais à l'instant, c'est un sujet tabou. Donc, comment faire pour changer un tabou de société ? Autrefois, nous espérions, et notamment Paul Quillès et Bernard Norlin, qui sont donc nos deux présidents, ce sont deux individus qui ont eu le doigt sur la gâchette, entre guillemets. Paul Quillès, en tant que ministre sous Mitterrand, ministre de la Défense, mais également Bernard Lanvin, qui a été donc général 5 étoiles de l'armée de l'air française, les deux étant donc directement responsables pour l'arsenal nucléaire français. Or, quand ils ont terminé leur rôle respectif, quand ils sont partis à la retraite, entre guillemets, puisque ce genre d'homme d'action ne part que très rarement réellement à la retraite, ils sont tous les deux lancés dans cette question de désarmement nucléaire qui leur paraissait absolument essentielle. Donc, ce qu'ils ont fait au départ sont des actions que eux connaissaient bien, c'est-à-dire des actions diplomatiques, des actions envers les journalistes, la publication de tribunes, mais également d'articles doctrinaux. Nous avons publié, toutes les semaines, nous publions donc des articles relatifs au désarmement nucléaire, aux différents traités, mais aussi au développement nucléaire à travers le monde. Nous publions dans cette même veine une revue de presse hebdomadaire dans laquelle nous regroupons toutes les informations, notamment celles vis-à-vis du désarmement nucléaire, mais aussi celles qui parlent de tensions accroissantes à travers le Moyen-Orient, mais par exemple entre la Corée du Nord et les États-Unis, la Russie. C'est un peu une approche géopolitique. Ça, c'était l'approche que nous utilisions à IDN pendant très longtemps, qui a été menée par nos deux présidents. Récemment, depuis environ 2 ans, nous avons changé de stratégie et au moins rajouté une nouvelle stratégie qui est donc celle de l'influence auprès de l'opinion publique et notamment auprès des jeunes. Et donc, nous essayons d'aller vers les jeunes qui risqueraient peut-être dans leur carrière future d'avoir un rôle décisif à jouer sur la question des armes nucléaires. Nous allons donc voir, bien sûr, les universitaires, mais également ceux qui sont intéressés dans les questions de politique sociale, ainsi que ceux qui sont intéressés par les questions de politique internationale, mais aussi des gens un peu de tous les jours qui travaillent notamment à la Croix-Rouge, qui est un partenaire avec qui nous travaillons fréquemment, des jeunes qui sont intéressés donc dans les questions de droit humanitaire, mais en général de l'humanitaire. Ces événements-là que nous menons depuis un petit moment, nous essayons de les rendre plus attractifs pour les jeunes. C'est notamment pourquoi nous avons lancé le concours d'éloquence, la première phase étant dématérialisée, se produisant en ce moment. Si ça vous intéresse d'ailleurs d'aller voir certaines des vidéos qui ont été publiées, nous vous invitons à nous rejoindre sur YouTube. Et il y a toute une liste donc de vidéos du concours d'éloquence où chaque individu, chaque candidat a envoyé sa candidature virtuelle, une genre d'enregistrement en ligne. C'est un format inédit pour les concours d'éloquence en France, qui fait d'ailleurs que le concours d'éloquence pour le jour J de Janus est en fait le plus grand concours d'éloquence jamais réalisé en France à date.
Justement, on va parler de Janus. Selon vous, pourquoi les thèmes de cette journée sont particulièrement d'actualité ?
Eh bien, c'est très simple, parce que nous avons l'impression qu'il y a eu dans le passé plusieurs thèmes qui paraissaient évidemment importants, mais qui ne sont pas adressés par les politiques et qui ne sont pas réglés par la politique. Un d'entre eux, évidemment, c'est la crise climatique, qui est très complexe, qui paraît être un problème tellement énorme, tellement insurmontable, que les politiques ont tendance à soit en parler, peut-être en parler et dire que du bien des efforts pour réduire la crise climatique, mais il n'y a pas de réelle solution apportée qui soit globale. C'est également le cas avec la crise de santé publique que nous traversons en ce moment, où c'est un problème qui paraît tellement insurmontable. Et dans les deux cas, nous sommes certains qu'une des réponses à apporter, c'est le multilatéralisme. C'est le travail en commun de tous les États à travers le monde. C'est également quelque chose qui est nécessaire pour un désarmement international. Il faut qu'il se fasse de manière multilatérale. Donc, Janus, c'est la journée où nous parlons de menaces planétaires. C'est des sujets très sérieux. Et nous essayons de les aborder de manière assez, voire ludique, mais peut-être en tout cas de manière assez intéressante, pleine d'informations, mais pleine de pédagogie aussi, pour essayer de toucher à ces problèmes qui touchent la Terre entière en apportant des nouvelles réponses, des nouvelles solutions. Et pour ça, nous pensons que c'est très important d'avoir un mélange intergénérationnel et donc d'avoir des spécialistes de la guerre froide qui ont passé toute leur vie à étudier la question du désarmement nucléaire, informer la plus jeune génération qui, nous en avons été informés par les jeunes, manque énormément d'opportunités d'apprendre simplement ce que c'est que la dissuasion nucléaire, ce que c'est que la guerre nucléaire et tout le droit international qui l'entoure. Il y a très peu de formations qui offrent de l'éducation sur ces sujets-là. Et c'est notamment ce qu'avaient remarqué les ambassadeurs de la jeunesse, aujourd'hui appelés l'Institut des études géopolitiques appliquées, qui se spécialisent justement dans l'apprentissage de sujets qui ne sont que très peu ou pas enseignés dans les universités françaises. C'est pourquoi ils sont intéressés au désarmement nucléaire au départ.
Alors vous souhaitez interpeller les jeunes et durant Janus, vous organisez 3 concours. Un concours d'éloquence, un concours d'illustration et un MUN. Pourquoi ce type de concours? Et pourriez-vous nous rappeler ce qu'est un MUN?
Alors, pour commencer tout simplement, le concours MUN, donc MUN c'est un acronyme anglais, malheureusement, Model United Nations. Simplement, l'idée étant de donner l'opportunité à des jeunes de tenter leur chance dans une forme qui ressemble aux Nations Unies à régler des problèmes. La première phase que nous faisons, elle se fait en ligne, de manière dématérialisée, et nous permet d'inclure un grand nombre de jeunes. Nous avons donc 6 universités partenaires qui envoient chacun ou chacune environ 3 à 4 délégués. Chacun représente un État, et les États aujourd'hui sont donc, faisons 2 week-ends l'un après l'autre, où ils font face à un problème, et ensemble, ils doivent résoudre le problème de la même manière que le feraient les Nations Unies en appliquant les règles des Nations Unies, les différentes procédures, etc. Le premier problème que nous leur donnons, ils sont en train de régler en ce moment, c'est justement la question de la renégociation du traité START. Et donc, nous avons des candidats qui représentent la Chine, les États-Unis, la Russie, etc., etc. Ce concours, donc, qui se fait d'abord de manière dématérialisée, on aura une finale le jour J, donc le jour du 11 novembre, celle-ci sera un peu différente. Ce sera simplement 8 candidats que nous aurons choisis parmi ceux de la phase dématérialisée, ceux qui auront le plus participé, ceux qui auront été peut-être le plus éloquent, le plus convaincant, le plus préparé. Et ces 8 candidats viendront le jour J, le jour de Janus, pour une séance que nous appelons de crise, où il y a une crise aux Nations Unies, et on leur donne la situation de crise quelques jours avant le concours, et ils sont obligés de venir le jour J et d'essayer de régler cette crise à 8, chacun devant son pupitre, un peu comme s'il y avait un conseil de sécurité des Nations Unies qui se réunissait un peu en urgence. Je ne vais pas vous dire plus sur ce sujet-là, puisque c'est quand même une journée qui sera intéressante du fait de la présentation de cette crise, donc je vous invite à nous rejoindre le jour J. Et voilà, donc c'était un événement, une partie de l'événement qui s'intéresse aux jeunes et qui les implique directement puisque nous travaillons avec les facs. Pour ce qui est du concours d'éloquence, que nous faisons en partenariat avec la Fédération française du débat et de l'éloquence, l'idée, donc, une fois de plus, c'est que nous sommes dans un moment qui, pour tout le monde, est un peu compliqué. La crise sanitaire fait que beaucoup de choses que nous aimerions faire sont impossibles. Une d'entre elles sont les concours d'éloquence un peu classiques qui nécessitent qu'il y ait plein de gens qui se retrouvent dans une salle et qu'un par un, ils fassent leur discours. Chose impossible aujourd'hui. Donc, nous avons imaginé un nouveau format qui est le format que nous faisons en ce moment, qui est un format hybride. La première phase se fait de manière dématérialisée où tous les étudiants envoient, après avoir reçu un sujet individuel, une vidéo qui dure jusqu'à 5 minutes ou que nous publions sur YouTube et où chacun et chacune fait son discours et tout le monde en ligne peut aller voir leur vidéo, peuvent mettre des likes. D'ailleurs, les 2 vidéos qui auront récolté le plus de nombre de vues et de likes seront celles qui seront choisies. 2 de ces personnes seront choisies en tant que finalistes le jour J. Les 4 autres finalistes seront choisis par jury, comme il se doit dans un concours d'éloquence un peu classique. Voilà, donc aussi ici pour intéresser les jeunes, il est important de noter aussi que dans les 3 concours, il y a des bourses pour les gagnants, ce qui peut effectivement aussi intéresser les jeunes. Et le jour J, nous les aurons aussi, les jeunes du concours d'éloquence viendront en présentiel, 6 d'entre eux, pour faire leur discours devant une caméra, le tout rediffusé en ligne et sur YouTube, sur Facebook, mais également sur Radio for Peace, bien sûr. Le 3e événement, donc, c'est le concours d'illustration qui, lui, demande à ce que des jeunes un peu partout. Nous travaillons notamment avec un groupe de la Croix-Rouge qui s'intéresse à l'art, qui est créé souvent par des groupes handicapés, donc qui font ça très, très bien. On a reçu beaucoup d'entrées. Si, d'ailleurs, il y en a qui sont intéressés par ce concours d'illustration, nous vous encourageons à nous envoyer votre pièce d'illustration via notre adresse idnconcours@gmail.com pour y participer. Les gagnants verront leurs illustrations imprimées en grand format et diffusées le jour J à Janus pour les participants qui seront là.
Durant cette journée, il y a 2 tables rondes, une nucléaire et environnement et l'autre nucléaire et santé. Comment avez-vous choisi ces thèmes ?
Alors, comme je disais, nous avons essayé de penser aux menaces planétaires qui sont les plus pressantes et, bien sûr, celles aussi qui ont un lien direct avec les armes nucléaires. Le climat et les armes nucléaires ont un lien évident qui est donc, bien sûr, celui du dérèglement climatique, qui peut être à la fois le réchauffement climatique, mais aussi l'hiver nucléaire qui serait causé par une explosion atomique. De même, la crise climatique a un effet qui fait empirer la tension internationale et qui risque donc de faire sauter quelque chose à un moment ou à un autre. Nous pensons par exemple entre le Pakistan et l'Inde, où les tensions sont vives. Le dérèglement climatique risque d'apporter de plus en plus de tensions sanitaires, mais également alimentaires, à des États en voie de développement, et cela risque de créer encore plus de tensions. Il y a également aussi des cas où il y a vraiment un impact direct. L'exemple type, c'est celui des îles Marshall, où il y a eu des explosions nucléaires, des tests nucléaires dans le passé, et pour recouvrir tous les déchets nucléaires, ils ont fait une espèce d'énorme couverture en ciment, sauf qu'avec la montée des eaux, cette couverture en ciment se voit submergée, se voit fissurée, et donc les déchets nucléaires vont finir par se répandre tout autour des îles Marshall. On voit donc un conflit qui prend les armes nucléaires et le dérèglement climatique et les unifie parfaitement. Donc c'est des liens entre les deux sujets. Et nous parlons également du lien entre les armes nucléaires et la crise sanitaire que nous vivons, puisque c'est une crise qui mérite donc une approche multilatérale, qui est très compliquée, c'est du jamais vu. Nous pensons également que c'est quelque chose qui ressemblerait à une guerre nucléaire ou même une petite explosion nucléaire, puisque la crise sanitaire qui en découlerait serait telle qu'il faudrait un effort multilatéral pour y répondre, et un effort multilatéral pour y répondre avant même l'explosion, c'est celui que nous espérons engager.
Après la journée, comment allez-vous utiliser la matière produite ? Est-ce qu'il y aura des suites ?
Oui, absolument. Donc, vu le succès qu'a eu le concours d'éloquence et vu le succès qu'a eu le concours de simulation des Nations Unies, comme je disais, le concours d'éloquence que nous avons, le nouveau modèle, le fait que c'est le plus grand concours d'éloquence jamais réalisé en France, nous espérons, bien sûr, l'an prochain, répéter cet événement avec des nouveaux jeunes, des nouvelles candidatures. Ça nous a d'ailleurs fait très mal au cœur parce qu'on a reçu des centaines de vidéos pour le concours d'éloquence et il y en a des superbes, vraiment, vraiment des superbes. Malheureusement, nous sommes obligés d'en choisir que 6 sur, je pense qu'on était à 90 entrées à la fin. C'est très compliqué pour nous, mais nous aimerions donc répéter cet événement. Dans tous les cas, nous allons prendre les enregistrements qui nous ont été envoyés, que ce soit pour le concours de MUN, donc de simulation des Nations Unies, ou pour le concours d'éloquence, mais également les interventions qui auront été faites le jour J. Le tout, nous allons en faire un genre de petit documentaire qui reprendra les meilleurs éléments, les éléments les plus juteux pour influencer et espérer récupérer donc une partie des associations avec qui nous avons travaillé cette année afin de refaire la même chose l'année prochaine ou l'année d'après. Nous avons donc d'autres projets pour le futur, non seulement Janus, mais cela, on les annoncera le jour J, donc je me permets de les garder dans ma poche.
Quel message souhaitez-vous faire passer aux auditeurs pour finir ?
J'aimerais simplement que les auditeurs se posent la question de ce qu'ils savent sur les armes nucléaires aujourd'hui. Qu'est-ce qui protège les auditeurs aujourd'hui de ces armes nucléaires ? Pourquoi est-ce que ces armes nucléaires sont-elles nécessaires ? Est-ce qu'elles le sont vraiment ? J'aimerais simplement que les auditeurs se posent des questions et nous essaierons bien sûr d'y répondre le jour J. Mais pour moi, c'est important parce que je trouve que c'est des questions qu'on ne se pose pas assez et je sais que nous vivons dans un monde un peu stressant, un peu compliqué en ce moment, mais voilà une question, je pense, qui est importante et qui se posait beaucoup, beaucoup durant les années 60, 70, 80, même 90, mais qui n'existe plus. On n'en entend jamais parler dans les cercles diplomatiques, on n'en entend jamais parler en politique française, à l'Assemblée nationale. Donc j'aimerais simplement que les gens s'y intéressent, parce qu'il en va de notre survie. Voilà, voilà.
On vous donne rendez-vous le 11 novembre pour la journée contre les armes nucléaires et pour la sécurité. Merci Simon-Albert Lebrun d'avoir accepté notre invitation.
Eh bien, merci beaucoup Sylvain et merci à Radio for Peace International qui rediffusera le jour J l'événement Janus. Et nous invitons bien sûr à nous y rejoindre.
Ça sera avec grand plaisir. Au revoir.
Au revoir.